France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est d'abord une pièce de théâtre en 1938, puis un film de George Cukor qui date de 1944 et s'appelle Gaslight en anglais, Antise en français. Un mari, Charles Boyer, élabore toutes sortes de stratégies pour que sa femme, Ingrid Bergman, se croie folle et qu'il puisse la faire interner. Une de ces techniques consiste à baisser à son insu l'intensité lumineuse de l'éclairage au gaz de la maison, d'où le titre « Gaslight », tout en prétendant que la lumière n'a pas changé. Elle a alors l'impression d'halluciner et se croit folle. Le terme « gaslight » ou « gaslighting » est ensuite passé dans le langage courant à la fin des années 50 dans les pays anglophones pour désigner une forme particulière de manipulation psychologique visant à perturber la perception de la réalité d'une personne et par extension à la faire passer pour folle. On appelle aussi ça le détournement cognitif. En France, le terme a été popularisé par les réflexions féministes nées du mouvement MeToo et surtout l'essai philosophique d'Hélène Frappa, le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, qui a connu un grand succès. On pensera aussi en écoutant ces deux témoignages au livre d'Adèle Yon, Mon nom est Elisabeth, et plus récemment à celui de Pauline Chanu, Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes. Et c'est justement Pauline Chanu qui signe cette émission avec Inès Bouffartigue-Sébastia. Tout de suite donc, deux femmes gaslightées.
Alors, je m'appelle Libera, je suis enseignante et j'habite en Bretagne. J'ai rencontré mon ex-mari alors que je vivais à l'étranger. Je revenais régulièrement dans ma ville natale pour voir mes parents. Et à l'occasion d'un dîner de famille chez ma grand-mère, lui étant le voisin de ma grand-mère, sa porte était entrouverte. Je vais déjeuner, je ressors, j'étais en compagnie de mon père et... On frappe à sa porte pour lui indiquer que sa porte était restée ouverte pendant de nombreuses heures. Il sort et là, mon père me dit « Oh bah regarde, il est pas mal ». Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Bon bah très bien, du coup je vais draguer et essayer de rentrer en contact avec ce voisin ». Je lui ai donc écrit une lettre, un courrier. Il m'a répondu, on est allé boire un verre et très vite on s'est mis ensemble. Et après, il a trouvé un travail dans le sud. Donc on a déménagé, on est allé là-bas, je l'ai suivi, donc ça a concrétisé d'autant plus le couple en fait. Le premier moment où je me pose quand même des questions et en même temps je me remets moi en question, c'est que je revenais d'Italie, j'avais toujours des talons aiguilles, j'étais très bien habillée, très jolie, bien coiffée, je sortais jamais sans maquillage. Et j'étais dans un bar et puis il me dit « Mais tu sais, tes talons, là, moi, si je te présente mes copains, tu vas me faire honte. On n'est pas comme ça, on vit à la campagne, va falloir faire quelque chose. » Je dis « Bon, d'accord, faudrait que je revoie ma tenue vestimentaire. » La vie à deux avec lui, je me souviens quand même de violences physiques, d'une crise qui s'était terminée par une claque. Il m'avait mis une claque. Mais encore une fois, je pensais que c'était moi qui l'avais agacé. Et à l'époque, j'étais allée chez un ami à Lyon, me réfugier, mais je lui avais jamais dit que j'avais été frappée. J'ai attendu 3 ans avant d'être enceinte. J'ai dû prendre un traitement pour avoir mon enfant. Et une fois qu'il est arrivé, les violences ont triplé, quadruplé. C'était des humiliations, des horreurs tous les soirs. Avant de partir au travail, il disait à son fils « Ouais, j'espère que tu vas être en vie quand je vais revenir. Ta mère, elle est tarée, elle est folle. » Avec le thème de la folie qui était quand même très présent. Là ça, ouais, c'était compliqué. On est parti de Lyon quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Il a trouvé un emploi en Bretagne. Et là, tout s'est accéléré. Je me souviens douter de moi-même, puisque, par exemple, je voulais préparer le CAPES d'italien et je cherchais mes cours. Et je dis, mais ils sont où? Et d'un coup, il se lève du canapé, il va sous le matelas de notre lit. Il me dit, ah voilà, tu sais même plus où tu mets tes affaires, hein, c'était sous le matelas. D'accord, je les ai mis sous le matelas. Tous les matins aussi, je me levais et on avait un olivier dans notre jardin avec un trou à l'intérieur. Et il y avait tout le temps des figurines ou des petites voitures, des objets enfantins. Une fois, deux fois, trois fois, j'en avais même parlé au voisin qui me regardait un peu, mais c'est étrange. Et mon ex-mari et mon père m'expliquaient que c'était certainement un crapaud qui allait dans cet olivier et qui, en allant à l'intérieur de l'arbre, faisait glisser les petites voitures ou les objets dans le tronc. Et je ne me posais pas la question, je pensais que c'était vrai. Donc je racontais ça à qui voulait bien l'entendre, mais je passais pour une folle. Et avec mon ex-mari qui riait à côté, mais je le croyais. Je ne remettais pas en question ni mon père, ni mon ex-mari. Mon père était médecin pédiatre. Un pédiatre adulé par sa clientèle. Tout le monde l'adorait, il connaissait tous les juges, tous les avocats. Et parallèlement, c'était lui qui décidait tout, qui maîtrisait tout. Que ce soit ma vie, que ce soit même la vie de mon fils. C'est lui qui a choisi le prénom de mon fils, par exemple. J'ai fait parce que papa, il voulait. Je me suis rendu compte de ce qui se passait dans cette maison alors que j'ai fait une séance de MDR. C'est une technique qui permet, grâce à un mouvement oculaire, de revivre des traumatismes passés et de les traiter en même temps. Donc je vois et je vis des choses traumatisantes. Donc là, je prends la décision de partir. Mais comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas de compte bancaire. Je suis complètement dépendante de lui. Je ne savais pas par où commencer. Avocat, divorce, comment ça se passe? Je n'y connaissais rien. Et il me surveillait. Il vidait ma voiture, il fouillait tout. Là, ça a été compliqué, mais j'ai trouvé l'association L'Abricotier, que j'ai contactée. Je me suis écroulée en disant « je veux juste un avocat, je veux partir ». Ensuite, tout est allé très vite. Alors, le jour où il a découvert que je demandais le divorce, c'était en semaine. Le facteur passe le matin, je savais que le courrier allait arriver à son nom. Je le pose sur le plan de travail dans ma cuisine et je l'entends rentrer à 18h. Et j'étais avec mes deux enfants, dont ma petite, dans une nacelle. J'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment il va réagir. Il rentre, il ouvre le courrier. Très calmement, il prend la nacelle où ma fille était dedans. Je reste seule dans la maison avec mon fils. Et il revient 20 minutes après avec des bières. Il pose les bières sur le plan de travail, il me regarde et il me dit « T'es vraiment une salope, tu vas faire pleurer ma mère ». Je change de domicile assez rapidement. Ma priorité était de ne pas rester dans une voiture avec mes enfants. Donc j'ai accepté le logement social qui n'était pas très loin du domicile familial. En fait, lui avait gardé la maison commune. Et je fumais à l'époque et j'habitais en rez-de-chaussée. Je laissais la porte de mon arrière-cuisine ouverte tout le temps. L'accès était possible par cette porte-là. Un jour, je commence à entendre des bruits de portes en pleine nuit s'ouvrir, se fermer. Je vais vérifier, il ne se passait rien. Et puis petit à petit, il s'est passé des choses assez étranges. Ma boîte aux lettres ouverte, ou alors des documents à l'intérieur ouverts. Des objets étranges. Dans mon salon, par exemple, je me souviens m'être réveillée un matin et voir un test de grossesse positif. Je commence à me dire que tout le monde avait raison, que je suis folle, en fait. Et en même temps, je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu venir chez moi? Au moment de divorcer, on devait aller récupérer, enfin je devais aller récupérer le recommandé à la poste qui enfin allait finaliser le divorce. J'avais préparé une petite bouteille de champagne, je me souviens, et j'avais convié une amie. Je devais aller chercher le recommandé. Et là, je me réveille un matin, je me lève, je vais sur le balcon pour fumer ma cigarette et je vois des excréments de chien, je pense, sur mon balcon. Et je me baisse. Et en me relevant, je me rends compte que je suis pleine d'excréments, de mon torse à mon bas-ventre, en fait. Et là, je panique, j'ai peur. Et quand on a peur ou quand on a l'impression de se noyer, ben, on essaye d'attraper une bouée de sauvetage. Et moi, je n'ai pas pris la bonne parce que je suis allée chez mes parents. Je me rends compte qu'ils minimisent, qu'ils ne me croient pas, mon père surtout. Donc, je reprends mes enfants et je repars. J'arrive chez moi et là, la nuit d'horreur commence. 15 minutes après, ma mère arrive et mon père également. Donc, ils rentrent. Très vite, ils prennent mes clés et ils prennent mon téléphone portable. Je comprends assez rapidement qu'il va se passer quelque chose et que je ne serai pas demain auprès de mes enfants. Donc je fais deux petits tas de vêtements pour mes enfants, je prépare tout. Et il commence à me dire, donc mon père, médecin, tu vas aller te faire interner, là maintenant ça va pas du tout. Tu viens, je t'emmène, allez monte, tu viens, en me tirant le poignet. Et là je résiste en disant non, je m'assois sur le canapé, je dis non mais je suis pas folle. Et mon ex-mari arrive également à mon domicile. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, j'essaye de sortir de chez moi. Je cours voir un voisin, suivi de très près par mon père et mon ex-mari, qui disent, non, mais elle est folle, vous inquiétez pas, on gère l'affaire. Et je dis d'appeler la gendarmerie. Mais je ne sais pas comment. Il y a une ambulance, à un moment donné, qui est devant chez moi. Et mon père essaye de me mettre dans l'ambulance. Et je lui dis, non, au moins, elle a des sens de ne pas me toucher. Et là, c'est mon ex-mari qui me porte et qui me mettent dans l'ambulance. Je sais que c'est fini. C'est pas la peine que je lutte encore. J'arrive aux urgences. Mon père et mon ex-mari y sont. Mon père passe la nuit à mon chevet. Je vois le psychiatre le lendemain, qui, en deux minutes, me dit que je peux sortir, qu'il n'y a aucun souci. Mon père assiste également à l'entretien. J'ai découvert dans mon dossier médical qu'il voulait absolument s'entretenir avec le psychiatre, que j'étais en plein délire, en pleine bouffée délirante, que l'internement était obligatoire, que l'hospitalisation était inévitable, toujours en utilisant également sa carte de médecin. Donc je repars avec mon père dans sa voiture. Et arrivé à mon domicile, je demande mes clés. J'ai mes clés. Mais dit, il est hors de question que tu ailles quelque part. Et là, je lui dis, je passe sous curatelle, j'ai un rendez-vous, je pars. Et je vais récupérer ce recommandé, enfin à la poste, que je signe et que je renvoie tout de suite. Alors, mes parents repartent finalement. Et moi, ma priorité est de changer de domicile. Étant maman avec deux enfants, j'ai eu la chance de passer en priorité. Du coup, j'étais un petit peu plus éloignée de son domicile. Je suis allée dans un village un petit peu plus loin. Et là, j'ai tout blindé. Donc, j'ai mis vidéosurveillance. J'ai, évidemment, avant de rentrer, j'ai fait les serrures. Enfin, j'ai tout fait. Il était impossible de rentrer dans mon domicile. Impossible. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien eu. Et je sais que lui a refait sa vie. Il ne pouvait plus s'absenter la nuit de chez cette personne. Et ça s'est arrêté. J'ai décidé de porter plainte contre mon ex-mari. J'ai pas peur de sa réaction, puisque maintenant je suis entourée. Et je sais que je dis la vérité. Et maintenant je me fais confiance. Je douterai plus jamais de mes sens, comme il a voulu faire. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Après cet épisode, j'ai continué à voir mes parents. J'avais beaucoup de mal à me séparer d'eux. C'était incompréhensible pour moi que des parents puissent faire ça à leur enfant. J'avais confié à ma mère que je ne comprenais pas et que je leur en voudrais tout le temps de cette tentative d'internement abusif. Elle me répondait qu'elle n'avait rien vu, elle avait juste gardé les enfants, qu'elle n'y était pour rien. Et mon père, avec sa personnalité, lâche rien, lâche pas. Donc d'abord, ils ont essayé d'utiliser les enfants, qu'ils avaient le droit de les voir, etc., de jouer sur ma culpabilité. Et finalement, non, ils veulent voir les enfants, qu'ils fassent une procédure ou une demande à un juge. Et tout ça, il m'a fallu beaucoup de temps. Et j'ai compris que ces personnes étaient toxiques, nocives et minables, en fait. Mais, sauf que ces personnes, ce sont mes parents. Donc mon ex-mari, il n'y a pas de problème, je le laisse sur le côté de la route. Mes parents, j'ai eu beaucoup de mal, mais là, aujourd'hui, non, je ne veux plus entendre parler d'eux, en fait.
France Culture. Pieds sur terre.
Je m'appelle Lamia, j'habite sur l'île d'Oléron et j'ai 55 ans. Je l'ai rencontrée il y a une vingtaine d'années lors d'une soirée entre amis. C'était un 14 février, c'était une soirée, on l'avait appelée anti-Saint-Valentin. Enfin, c'était pour ceux qui étaient seuls à la Saint-Valentin. Et je m'en souviens très très bien, c'était une ambiance très festive. Moi, j'étais très contente, très heureuse, habillée d'une façon très féminine. Mon ex, je me souviens très bien, la première fois que je l'ai vu, il m'avait regardé de la tête aux pieds. C'était un regard insistant, il était tout à fait, assez ordinaire. À la fin de la soirée, on s'est posé et on a discuté ensemble. On s'était trouvé des affinités. Et puis, il m'avait proposé d'aller au cinéma le lendemain. Puis voilà, la relation a commencé. Très vite, donc, on a passé du temps ensemble. Il m'a proposé de vivre avec lui, de quitter mon appartement. Donc, j'ai emménagé chez lui. J'ai un diplôme en traduction et un autre en langue étrangère appliquée. Il m'a aussi conseillé d'abandonner mon travail. 2-3 mois après, il m'a proposé d'être enceinte. Moi, je n'avais pas une envie d'enfant. J'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai 34 ans, c'est peut-être le moment. Et donc, au mois de février, j'étais enceinte. C'est allé vraiment très très vite. Le cinquième mois de la grossesse, il a commencé à me dire, moi je ne veux pas vivre à Paris. C'est quelqu'un qui vient de la campagne, d'une île. Et donc, il me disait, moi, je ne veux pas continuer à vivre à Paris. Moi, je n'avais pas envie. Et il insistait. Il m'a dit, moi, de toute façon, même si tu ne viens pas, je pars. J'avais effectivement plus de travail, plus d'appartement, plus de moyens de survie. J'étais, économiquement bloquée. Et je me suis dit, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas rester ici, élever un enfant seul, tu es obligée de le suivre. Et donc, on a entrepris de faire des travaux et d'emménager sur l'île d'Oléron. Cette maison, ce crédit sur 30 années, a fini par m'attacher à lui et à ce lieu. Lui avait effectivement sa famille, puisqu'il avait passé toute son enfance, sa jeunesse là. Et moi, je me suis retrouvée dans un village complètement isolé, sans amis, sans famille, complètement à sa merci, à vivre dans un vase clos entre lui et mon enfant, uniquement. On ne recevait quasiment personne, et ça pendant quasiment 20 ans. Petit à petit, j'ai eu une impression qu'il fallait marcher sur des œufs. C'est-à-dire que certains mots, effectivement, étaient interdits. Par exemple, je n'étais pas autorisée à dire « je m'en fous ». Il fallait dire « oui, ça m'est égal », mais ces mots qui pouvaient exprimer un sentiment un petit peu de lassitude ou peut-être un petit peu de colère étaient interdits. Et puis tout au long de notre vie à deux, il m'a totalement contrôlée économiquement parlant. Il y a l'exemple de la table de chevet. Je n'ai pas eu le droit d'avoir une table de chevet pendant au moins 6-7 ans. À chaque fois que je demandais, je disais « ah bah oui, mais je veux bien une table de chevet. Ah, la prochaine fois, ah. » C'était comme ça. Ce n'était jamais un non frontal. C'était toujours détourné. C'était à peu près, 6 mois après mon arrivée. Et là, pendant cette dispute, il remplit un bol en céramique d'eau et il me lance l'eau à la figure. Pour lui, c'est pour me calmer. Et donc, le bol m'atteint au niveau de l'œil. Et donc, j'ai une cicatrice. Il me dit « oui, je n'ai pas fait exprès de te frapper ». Et ça, c'est arrivé très régulièrement. Les disputes, il me prend, il me fait une sorte de clé de contention et il m'entraîne sous la douche, tout habillé. Il ouvre l'eau ou il fait mine d'ouvrir l'eau. Et ça, c'est arrivé très très régulièrement. Alors, je me débattais, je ne me laissais pas faire. J'ai eu des pétéchies, des taches rouges sur tout le haut du corps, les bras, la poitrine, les épaules, ces pétéchies, ça fait des vaisseaux sanguins qui éclatent et qui ne guérissent pas. Ça veut dire qu'il serrait tellement fort que j'ai toujours ces marques rouges là où il me serrait avec cette contention. À partir du moment où on a emménagé là, je me suis sentie condamnée à vie, à rester dans cet endroit où je ne voulais pas vivre. Donc, très régulièrement, je me rebellais. Dans ces moments de rébellion, j'avais des phrases comme « je ne suis pas responsable, ce n'est pas vrai, tu voulais aussi venir. Et c'est là que j'avais ce genre de comportement très très violent à mon égard. Par exemple, si je faisais une crise, comme il disait, il me menaçait d'appeler les pompiers. Il présentait ça comme une menace. Et moi, j'ai eu très peur qu'il me fasse interner, parce qu'il me disait « tu es folle, il faut que tu te fasses interner, il faut que tu ailles à l'hôpital psychiatrique ». J'ai eu très peur, très très peur. Si j'avais donné un avis différent du sien, il me disait « tu es malade, tu as une maladie, et ces dernières années, tu es borderline ». Il me dit « j'ai adhéré à une association de borderline pour comprendre la maladie, mais aussi pour me protéger, moi, pour que je sache quoi faire contre toi ». Les trois dernières années où on a vécu ensemble, ça a été comme une escalade. Il me disait quelque chose et son inverse dans la même phrase. J'en suis arrivée à ne plus savoir quelle était la vérité. Je ne savais plus qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Il me disait « tu imagines ». Tu délires, tu ne sers à rien. Il rentrait du travail, il s'asseyait à table. J'ai été confrontée à un silence absolument effrayant. Je lui parlais, par exemple, je lui posais une question. « Tu veux un verre d'eau ?» Il ne me répondait pas. Je répète, « Tu veux un verre d'eau ?» Il me dit, « Mais je t'ai dit oui. » Moi, je n'ai rien entendu. Il est juste à côté. Ah bon ? Mais je n'ai rien entendu. Si, si, je t'ai répondu, tu n'as pas entendu. Je disparaissais petit à petit. Voilà, ça a été une torture, une vraie torture. J'avais envie de mourir. Fait de tous ces agissements, je n'avais plus envie d'avoir des relations intimes avec lui. Un jour, il a utilisé des menaces. Il me dit « tu ne travailles plus, tu ne sers à rien ». Et le soir, c'est moi-même, ayant pleuré toute l'après-midi, qui suis allée vers lui et qui me suis proposée à avoir une relation intime avec lui. Durant l'acte intime, je me suis mise à pleurer doucement, en silence. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et là, j'ai tout arrêté. Et c'était fini. C'était la dernière fois. Quelque temps après cet incident, je me lève et je trouve un mouchoir posé sur son oreiller. Et ce mouchoir était maculé. Voilà. Je me dis, c'est un message. Ce que je comprends, c'est, tu te rends compte ce que je suis obligée de faire ? Et moi, ce que je comprends aussi, c'est que je suis un réceptacle. Cette situation me mettait dans un état d'anxiété extrêmement fort. J'étais comme sur une corde raide, voilà, comme une funambule. Un jour où nous étions à La Rochelle, j'étais tellement bouleversée par son attitude. Il est égaré, je sors sans chaussures, je me mets en travers de la route et je veux qu'une voiture vienne et me heurte. En fait, j'ai envie de mourir. Il ne bouge pas, il ne fait pas un pas vers moi. Et par chance, il y avait une voiture avec des policiers dedans. Ils s'arrêtent, ils viennent me chercher. Et il parle avec lui et il leur dit « Oui, en fait, elle fait une crise. Les policiers ils ne m'emmènent pas chez les pompiers. Je ne suis pas emmenée aux urgences. Je suis mise dans la voiture avec mon mari. Durant tout le trajet, je pleure. Il ne me regarde pas. Il ne me parle plus. J'ai un monstre devant moi. » Euh, c'est quelques mois plus tard que j'ai fini par aller voir une psychologue. Et donc, elle me dit, écoutez, ce que vous m'expliquez, c'est une situation d'emprise. Vous êtes sous emprise. Ce que je n'avais pas du tout compris, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais jamais mis de mots dessus. Mon mari, qui me conseillait de voir un psychologue pour que je me calme, en fait, ça ne m'a pas du tout calmée de voir la psychologue. Au contraire, je voyais les choses, je voyais clair, j'étais clairvoyante. Je remettais en question ce qu'il faisait, je ne lui faisais plus confiance. J'allais vérifier des choses qu'auparavant, je ne vérifiais pas. Et lui s'en rendait compte. Je lui ai dit, je veux divorcer, on va vendre la maison. Et là, il me dit, je ne divorcerai pas avant que tu sois guéri. C'était une sentence. Tu dois être guéri et ensuite, je divorce. Il voulait absolument que je sois internée dans un hôpital psychiatrique. En fin de compte, ça n'a pas été le cas. Enfin, je guéris ou pas, il a fait autrement. Ce fut le silence radio pendant 2-3 mois. Là, il m'a dit, bon, c'est fini, je veux divorcer. J'ai rencontré quelqu'un, et puis là, voilà. Ça, c'est... Et là, on est en procédure de divorce. Voilà, je suis en attente de la fin de la procédure, que le divorce soit prononcé, et puis afin d'envisager l'avenir plus sereinement. Jusqu'au bout, mon sentiment, c'est d'avoir été un pion. Voilà.
Todo lo que dejo detrás, ¿a dónde va? ¿A dónde van mis sueños? Lo que un día quise olvidar, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Quién podrá saberlo? Todos los que pasan por mí, ¿a dónde van? ¿A dónde van? No hay nadie. Lo que un día quise decir, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Mi miedo, ¿quién podrá saberlo? Tú y yo tenemos tanta suerte, tanto tiempo, tantos sueños inmortales. Yo tenemos tanta historia, tantas ganas y el amor que es inmortal.
C'était Gaslighting, un reportage de Inès Bouffartigue, Sébastia et Pauline Chanu, réalisé par Louise, André et Benjamin Hu, au mixage Nicolas Leroulet, et l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, notre stagiaire c'est Mina Morel. Merci particulièrement à Libera, à Lamia, aux autres témoins anonymes qui ont nourri ce travail, ainsi qu'à l'association Abricotier et au sociologue Pierre-Guillaume Prigent.
Tantos sueños inmortales. Tú y yo tenemos tanta historia, tantas ganas y el amor que es inmortal. Sin terminar, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Silencio.